Résumé des chapitres précédents. Depuis le chapitre 3, Paul nous parle, c'est un terme un peu abstrait, de théologien, de la justification par la foi. En termes plus compréhensibles, ça signifie que Dieu m'a déclaré innocent, pur, en raison de ma foi en Jésus-Christ. Cette foi, ça consiste à croire que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il a pris mon péché, qu'il est mort à ma place, qu'il est ressuscité. Il est devenu mon remplaçant. C'est lui qui a reçu le jugement pour mon péché. Et parce que je crois en lui, Dieu me déclare innocent de toute charge, justifié par la foi. À l'époque, c'était déjà quelque chose de révolutionnaire. À notre époque, c'est aussi quelque chose d'incompréhensible. Depuis la plus tendre enfance, on nous apprend que il faut mériter les choses. On travaille dur, on a des bonnes notes. Si on a des bonnes notes, on a l'examen. Si on a l'examen, on peut être embauché. Si on peut être embauché, on a un salaire. Si on a un salaire, on peut fonder une famille. Si on peut fonder une famille, on peut avoir de l'argent. On peut avoir de l'argent pour acheter une maison. Et c'est toujours cette idée que c'est à moi que c'est... La responsabilité repose sur moi. Je dois produire pour recevoir. Et ça, c'est difficile pour nous de nous défaire de ce concept de récompense. Pour les Juifs qui mettaient encore plus d'efforts dans leur effort, mettaient plus d'efforts dans leur essai d'amadouer Dieu, de lui plaire en vivant les commandements, non seulement les 10 commandements, mais toute la loi, toutes les plus petites détails de la loi, plus les détails qui avaient été ajoutés par eux-mêmes, par la tradition, leur dire qu'en fait, vous avez tout faux, c'est difficile. On peut dire, tu as tout faux, un petit garçon qui vient de commencer l'algèbre, mais si j'allais dire à Rémi, quand il fait une formule de mathématiques, là, tu as tout faux, il me dirait, ça va pas la tête. Il a raison. Mais je veux dire, l'adulte a plus de mal à se remettre en question. Les Juifs avaient beaucoup de mal à imaginer qu'ils s'étaient trompés tout le temps. Ils ne voulaient pas le reconnaître. Et Paul, pour enfoncer le clou, leur dit, mais vous aimez Abraham, vous le respectez. Abraham lui-même a été justifié par la foi. David, le grand roi David, que vous révérez, il a été justifié par la foi. Et là, au chapitre 5, il va commencer en disant, étant donc justifié par la foi, et puis là, il va en tirer les conséquences. Une façon plus exacte de traduire la forme de grammaticale, le temps du verbe, ce serait de dire « ayant donc été justifié par la foi, une fois pour toutes ». Pour le chrétien, celui qui est né de nouveau, le fait que Dieu nous accepte, c'est un fait qui est acquis, affirmé, qu'on ne doit jamais remettre en question. Paul, il veut nous assurer que la justification, c'est pas quelque chose qu'on peut perdre au milieu de nos épreuves, de nos souffrances, de nos tribulations. Il nous dit non, vous avez été justifié par la foi, point final. Et ce qu'il veut nous dire aussi, c'est qu'il veut nous convaincre du fait que être chrétien, c'est formidable. Être chrétien, c'est pas la justification n'apporte pas seulement la garantie du paradis futur, de vivre avec Dieu pour l'éternité dans l'autre monde. Non, c'est déjà ici-bas. Jésus parlait de la vie abondante qu'il promettait en disant que moi, il était venu, il disait, pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ça, c'est l'économie de Dieu. Dieu est pas radin. Dieu est riche, il est généreux, il donne en abondance. Paul va nous montrer qu'il y a sept fruits, sept bénédictions qui découlent de notre justification. On va voir qu'on a la paix avec Dieu, comme Zoé l'a rappelé, nous l'avons chanté. Nous avons accès à Dieu et à sa grâce. Nous avons l'espérance de la gloire de Dieu. Nous verrons tout ce que ça recouvre, toutes ces choses. Nous avons un caractère chrétien fort. Nous avons l'amour de Dieu. Nous sommes, sixièmement, protégés de la colère de Dieu. Et septièmement, nous sommes réconciliés avec Dieu. On va lire ensemble les versets 1 à 11 du chapitre 5 de Romains. Je lis dans la version à la colombe. Si vous avez besoin d'une Bible, il y en a derrière. Peut-être Sébastien peut en passer quelques-unes. C'est page 174 de la Bible à la colombe, à la fin. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Parce que nous sommes déclarés justes par Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Et quelque part, on se demande, mais je sais que je suis toujours aussi mauvais, je sais que je continue à pécher, comment est-ce que Dieu peut me déclarer juste ? On a dans l'idée de juste, de justifier, l'idée que la personne est rendue légalement innocente. C'est comme un document de justice qui dit innocent, acceptable. Et le mot juste, il y a aussi l'idée d'être honorable, d'être droit dans tous ses rapports avec les autres, dans tous ses actes. Et on se dit, mais comment est-ce que Dieu peut être juste en me déclarant, moi, qui ne suis pas juste, juste. Et bien sûr, c'est, on l'a vu, vous le savez, mais on va relire 2 Corinthiens 5:21, c'est pas la peine de vous y tourner, mais il dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Autrement dit, Dieu reste juste en déclarant juste celui qui n'est pas juste, en faisant porter par celui qui est juste les péchés de ceux qui ne sont pas justes. C'est simple. C'est un échange. Moi, tout ce que je peux apporter à Dieu, c'est reconnaître, lui apporter mes péchés. Et lui, ce qu'il me donne, c'est la justice de Christ. Jésus prend tous mes péchés, toute la noirceur. Et il n'y a pas longtemps, j'étais accablé par ce que je voyais autour de moi. Je devrais être accablé aussi par ce que je vois en dedans de moi. Et je pensais à tout ce que Jésus avait dû porter sur la croix. Tout ce qui peut vous révolter, tout ce qui peut vous faire pleurer, tout ce qui peut vous attrister, tout ce qui peut vous décourager, tout le péché que vous voyez en vous et autour de vous, Jésus l'a pris sur lui. Mais parce que lui, il est le juste, le parfait, qui n'a jamais péché, son sacrifice correspond à la dette que nous devons payer. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est que il faut que j'arrête d'essayer de mériter cette acceptation de Dieu. Je ne peux pas la mériter. Tout ce que je peux faire, c'est recevoir la justice de Jésus qu'il me donne. Et je ne peux pas améliorer cette justice. Ce n'est pas en chantant plus fort le dimanche matin, en arrivant à l'heure pile ou même une demi-heure à l'avance, que je peux améliorer la justice dont Dieu m'a revêtu. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la mienne, c'est celle de Jésus. Et cette justice, elle est parfaite. Je ne peux pas la mériter en travaillant dur, je ne peux pas l'améliorer, je ne peux pas l'acheter. Qu'est-ce que je peux faire alors ? Simplement la recevoir, l'apprécier et avancer avec. Dans ma vie, et sans doute dans la vôtre, il y a trop souvent des moments où on vient à Dieu comme le fils prodigue venait au Père, en disant « Oh, pardon, pardon, oh, c'est encore moi. C'est encore moi, oui, mais je suis encore tombé dans le péché. Oui, j'ai encore fait ça. Oh, pardonne-moi. » Et la semaine d'après, c'est la même chose. Quelques jours plus tard, j'ai besoin de ta justice. Mais je te l'ai donnée. Elle est parfaite. Nous devons prendre cette justice et aller plus loin. Savoir que notre relation avec Dieu, elle est réglée une fois pour toutes. Pourquoi c'est si important ? Parce que c'est tant qu'on n'a pas la confiance, on n'a pas l'assurance, on va vivoter, on va se reconvertir tous les dimanches. Dès qu'il y a des personnes, c'est encourageant pour un pasteur lorsqu'il fait un appel de voir une personne au moins se lever, mais quand c'est la même semaine après semaine, c'est que la personne n'a rien compris. Il faut dire non, on va parler. Cette justice, Dieu nous dit, recevez-la et profitez-en. Utilisez-la, vivez-la. Et les bénéfices, profitez-en, utilisez-les, reconnaissez-les, jouissez-en. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, ça règle le problème du passé. Dieu ne retient pas notre péché contre nous. La paix, le mot, c'est en grec, c'est le mot irénée, d'où vient le mot René. Ça veut dire union avec Dieu. Parce qu'en fait, quand nous sommes incroyants, nous sommes en guerre avec Dieu. Plus loin, verset 10, il a dit, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Au chapitre 8, il parlera des tendances de la chair qui sont ennemies de Dieu. Dans Colossiens, Paul disait, vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos actions. Ésaïe avait déjà dit, il n'y a point de paix pour le méchant. L'œuvre de la paix, l'œuvre de la justice sera la paix. Ésaïe 32, 17, l'œuvre de la justice sera la paix. Le fait que nous soyons justifiés, que Dieu nous donne la justice de Christ, ça nous donne la paix avec lui. La justification, on chantait tout à l'heure, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La condamnation, c'est une déclaration de guerre. Si les experts de l'ONU condamnent Hussein en disant qu'il a des armes de destruction massive, ça sera une déclaration de guerre dans les situations actuelles. La justification, c'est une déclaration de paix. Vous êtes innocent, je ne vous en veux pas, je vous aime. Vous êtes parfait à mes yeux parce que vous avez reçu la justice de Christ. Il est dit que la justice et la paix s'embrassent dans le psaume 85, verset 10. La paix avec Dieu, ce serait mieux traduit la paix face à Dieu. C'est un peu comme si vous venez devant Dieu et vous n'osez pas le regarder dans les yeux parce qu'il y a tous ces péchés dans votre cœur, tous ces péchés dans votre vie. Et vous venez, vous ne regardez pas. Et Paul nous dit c'est la paix face à Dieu. Vous pouvez le regarder dans les yeux. Cette paix, elle doit être distinguée de... Il y a une autre paix dont il est question, c'est la paix de Dieu dont Paul parle en Philippiens en disant que si nous avons... Nous devons nous inquiéter de rien. La semaine dernière, nous avons dit combien il est important de réaliser que nous vivons sous l'empire des peurs, de la peur. Peur de la maladie, peur de perdre le travail, peur de ne pas trouver du travail. Et vous pouvez multiplier dans votre tête les peurs qui vous enchaînent. Dieu nous dit par Paul dans Philippiens 4, 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication, des remerciements, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence incompréhensible, elle va garder vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Cette paix de Dieu, elle va être comme quelqu'un qui monte la garde devant votre vie, devant votre cœur, devant vos pensées. La paix avec Dieu parle d'une relation, d'un besoin du pécheur, elle va nous amener au paradis, elle est acquise une fois pour toutes. La paix de Dieu, ça parle de communion avec Dieu, c'est le besoin de celui qui a déjà été sauvé. La paix de Dieu, elle nous amène le paradis sur terre, avoir cette liberté d'esprit, de plus être guidé par nos peurs. Et c'est quelque chose qui est moment par moment. Donc il y a une petite différence, il y a une grande différence, mais ça vient lorsque nous sommes chrétiens. Il y a la paix avec Dieu, face à Dieu, on peut le regarder, on n'a plus à craindre. Parce qu'il est dit, c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Ça, c'est pour le présent. J'ai plus à avoir honte de mon passé, j'ai été justifié. Maintenant, j'ai accès à Dieu, à la grâce de Dieu, et je peux me tenir droit dans mes bottes devant Dieu, dans cette grâce. L'accès ici, ça parle du terme qui est utilisé pour l'audience qu'on a auprès d'un roi, d'une divinité. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire d'Esther, dans l'Ancien Testament. Cette femme juive qui était à la cour du roi Assuérus avait été chargée par son oncle d'aller plaider la cause des juifs que Aman voulait exterminer. Et elle était réalisée le danger parce qu'on ne pouvait pas se présenter devant le roi sans avoir été d'abord invité, convoqué devant le roi. Elle disait même que tout le monde sait que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué et mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Et elle, ça faisait 30 jours qu'elle n'avait pas été invitée chez le roi. Et c'est là qu'elle a dit, si je dois mourir, je mourrai, mais je vais obéir à Dieu et je vais aller voir le roi. On sait que le roi a étendu son sceptre d'or et lui a donné l'occasion de parler, mais dans l'Ancien Testament, on ne se présentait pas comme ça devant un roi. Et puis, on en a déjà parlé en étudiant le temple, mais l'accès à Dieu, c'était très limité dans l'Ancienne Alliance. Imaginons que vous êtes à Jérusalem, vous dites, ah ben ça tombe bien, je vais aller au temple. Je vais aller rencontrer Dieu. Mais attention, est-ce que vous êtes juif? Vous n'êtes pas juif, désolé. Vous ne pouvez pas aller plus loin que le parvis extérieur, dit des nations, le parvis des gentils, des païens. Il y a même un signe qui dit défense d'entrer plus loin sous peine de mort à tout païen. Au-delà de ce mur de séparation des juifs et des païens et des juifs, il y a quelques marches qui montent 3 mètres. Et puis il y a la porte des femmes, et là vous devez vous demander, mais est-ce que je suis un homme ou une femme? Vous êtes une femme? Désolé, vous ne pouvez pas aller plus loin. puis vous dites, bon, ça va, moi je suis juif et je suis un homme, je peux aller voir Dieu. Et là, on vous dit, ah non, 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 non. Est-ce que vous êtes prêtre? Parce que pour entrer maintenant dans le parvis, il faut être prêtre, il faut présenter des sacrifices, il faut vous laver les mains dans des ablutions rituelles. Vous n'êtes pas sacrificateur et désolé. Et puis vous dites, moi ça va, moi j'ai tout bon, je suis juif, je suis un homme et je suis prêtre. Tadam, je vais aller voir Dieu. Puis là on dit, vous êtes le grand prêtre. Ah, vous n'êtes pas le grand prêtre. Pas d'accès, désolé. Et puis vous dites, moi j'ai tout bon, non seulement je suis juif, je suis homme, je suis prêtre, mais alléluia, c'est moi le grand prêtre. Je vais enfin avoir accès à Dieu. Je vais aller lui parler. Mais attention, est-ce qu'aujourd'hui c'est le jour des expiations, le Yom Kippour? Non? Revenez l'an prochain. Et puis attention, vous devez faire couler le sang, d'abord pour vous, et puis pour les péchés du peuple. Et ainsi de suite. Pour l'accès à Dieu, c'était un parcours du combattant. J'aimais bien pêcher le saumon quand j'habitais Seattle, et ça fait penser un peu aux difficultés que rencontrent les saumons pour revenir à leur cours d'eau de naissance pour donner vie à d'autres poissons. Il y a les pêcheurs professionnels en Alaska. Après, il y a les pêcheurs amateurs qui, avec tous ces leurres de couleurs brillantes et très chères, par lesquelles ils sont fait attraper eux-mêmes, les pêcheurs. Et puis, il y a la pollution. Puis, même si vous arrivez là, après, il y a les barrages. Il y a des barrages, des fois, il y a des échelles à poissons, mais au bout, à l'entrée de ces échelles à poissons, il y a des phoques qui savent que c'est un bon endroit pour trouver du poisson. Puis dans les endroits sans pollution, il y a des ours, il y a des aigles, d'autres prédateurs. Ça, c'est l'accès à Dieu dans l'Ancienne Alliance. Il n'y avait pas d'accès à Dieu. Et vous savez que lorsque Jésus a été crucifié, il dit que le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Et que ce temple, c'est son corps. Son corps a été déchiré pour que nous ayons accès. Il y a l'histoire d'un petit garçon qui pleurait devant Buckingham Palace. Un garde avait dit non, il n'était pas possible qu'il aille voir la reine. Et il y avait le prince Charles qui à l'époque n'avait qu'une vingtaine d'années. Il venait en voiture, il rentrait et il avait vu le petit garçon qui pleurait en parlant au garde. Il était sorti, il avait dit au petit garçon, qu'est-ce qui se passe? Et le petit garçon a dit, je voulais voir la reine, on me dit que je ne peux pas la voir. Il a dit, donne-moi la main, je t'emmène. Et nous aussi, si nous prenons la main du Fils, nous pouvons parler au roi des rois, au Père, à Dieu. Nous avons accès à lui. Nous avons, non seulement les juifs, mais les païens, il est dit dans Éphésiens 2, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Trop souvent, nous nous limitons à penser à Dieu le dimanche matin, peut-être un peu le matin, si on a une discipline de lecture de la Bible, de prière, ou un peu le soir. Mais à tout moment, nous avons cette image que Dieu, il a des téléphones, il a des fax, il a Internet, il est très occupé, parce qu'il faut qu'il s'occupe du climat, il faut qu'il continue à faire tourner les planètes, hein. C'est un sacré boulot tout ça. Hein. La maintenance et les réparations qu'il doit faire. Et en fait, c'est notre façon de vivre que nous mettons à Dieu. Dieu est là qui nous attend, comme le Père du Fils prodigue, qui est là, qui est disponible, qui dit, viens passer du temps avec moi. Je t'aime. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui? Pourquoi tu as du chagrin? Pourquoi tu as de la joie? Et nous, on est là. Hein. On pense qu'il faut... Il faut frapper à la porte et peut-être on nous recevra. Là encore une fois, il faut changer notre façon de voir les choses. Dieu est accessible. Dieu a tout fait pour que nous puissions lui parler. Et nous pouvons demeurer fermes dans la grâce. C'est avoir une confiance totale en cette grâce de Dieu, que ce n'est pas parce que j'ai mérité cet accès, pas parce que j'ai mérité qu'il m'aime. Non, c'est parce qu'il a décidé de le faire et qu'il est parfait et que Jésus est parfait. On a la paix, on a l'accès, on a l'espérance de la gloire de Dieu. Alors, quand on dit l'espérance de la gloire de Dieu, ça peut être un peu des termes d'église, un peu vide quelque part. L'espérance de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'un jour nous verrons sa gloire, et en ce sens nous partagerons sa gloire. Ça ne sera pas nous qui aurons la gloire, mais nous serons enveloppés dans sa gloire. Nous nous glorifions, ça veut dire que nous vantons, nous nous réjouissons. Nous avons une confiance triomphante. On parle des fois de triomphalisme. On peut être triomphaliste avec Dieu. Il a triomphé du mal, il va triompher pour toujours. Le terme de se glorifier, ça revient au verset 3. Nous nous glorifions dans nos tribulations. Verset 11. Nous nous glorifions en Dieu. Nous vanter, nous dire qu'on est fier de ce que on est avec Dieu et qu'on va, on va voir sa gloire. La gloire, c'est la splendeur qui manifeste l'excellence de Dieu. La gloire, c'est la valeur de Dieu qui va être manifestée de façon visible et tangible. En tant que pécheurs, nous n'avons rien, nous n'avons pas de quoi nous vanter. On ne peut pas dire j'ai encore frappé ma femme. J'ai encore menti, j'ai encore volé. Non, ça, c'est pas des choses dont nous pouvons nous vanter. Même lorsque nous sommes de bonnes choses, nous ne pouvons pas nous vanter. C'est ce que disait Paul dans Romains 3, 27. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Il voulait dire, si on était sauvé par les œuvres, si on arrivait à impressionner Dieu avec nos œuvres, alors là, on pourrait dire, Seigneur, tu as vu, je suis arrivé ce matin à 6h30 à l'église. Mais ce n'est pas par les œuvres qu'on peut être accepté par Dieu, c'est par la foi dans son acceptation, dans son acceptation de nous. L'espérance de la gloire, ça parle donc du futur. On peut être confiant que quoi qu'il advienne dans nos vies, et Dieu sait si des choses terribles peuvent arriver dans nos vies, nous pouvons avoir cette confiance dans le futur. Et puis il va plus loin dans les glorifications, verset 3, ça va parler ça du caractère chrétien qui découle de la justification. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Alors là, beaucoup de gens ont du mal à suivre ce raisonnement. Quelque part, ça veut dire que nous pouvons nous glorifier, nous vanter, nous réjouir de nos souffrances. Alors ça, il faut la grâce de Dieu pour y arriver. Dans la logique humaine, c'est pas difficile, c'est stupide. Les gens ne voient pas comment on peut se réjouir de souffrir. Ou alors, il faut être sadomaso ou dérangé mentalement. Mais il ne dit pas de nous glorifier. Lorsqu'il est dit de nous glorifier dans les tribulations, ça ne veut pas dire qu'on se vante des souffrances. Ça veut dire qu'on se vante de ce qu'elles vont produire en nous. Parce que tout de suite après, il dit « sachant que la tribulation produit telle chose ». On ne se réjouit pas de souffrir, on se réjouit de savoir que nos souffrances, elles ne sont pas en vain, elles ont un sens et elles vont faire quelque chose de bon dans notre vie. Elles vont amener un caractère qui nous permet d'encourager les autres, de marcher avec Dieu. Et donc c'est important de réaliser que le fait de devenir chrétien, ça ne va pas faire qu'on échappe aux tribulations. Les tribulations, on y reviendra, ça veut dire les épreuves de la vie, les souffrances. Les souffrances, elles font partie de notre vie, d'humain. Et devenir chrétien, ça ne nous enlève pas à la condition d'humanité à laquelle nous appartenons. Nous avons les souffrances qui viennent du fait que nous vivons dans un monde affecté par le péché. Nous avons la maladie, nous avons la fatigue, nous avons des tas de problèmes. Et en tant que chrétiens, nous aurons même davantage de difficultés que les autres. Jean 16 nous rapporte les paroles de Jésus qui disait « Je vous ai parlé pour que vous ayez la paix en moi parce que vous aurez des tribulations dans le monde, des épreuves. » Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Dans Actes, Paul disait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul se réjouissait qu'il lui avait été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Encore une fois, il y a des faux enseignements. Et cet enseignement, encore une fois, c'est important quand on trouve quelque chose qui nous choque un peu, d'aller voir dans tout le conseil de la Bible, dans tout l'enseignement de la Bible, et voir s'il y a juste ce verset qu'on peut dire peut-être on l'a mal compris ou mal interprété. Mais si nous tournons vers Jacques, versets 2 et 4 du premier chapitre, dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. » Pierre disait, vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Paul nous réconfortera en nous disant, nous savons du reste encore cette idée de savoir, il est très important d'avoir ces faits, ces vérités à l'esprit pour vivre. Pour vivre juste, il faut penser juste. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, Romains 8, 28. Si nous restons myopes, si nous ne voyons que l'immédiat, si j'ai une vision étriquée au jour le jour, alors je vois la souffrance, je vois la peine, je vois la douleur et je ne peux pas me réjouir. Mais si je me dis, parce que j'ai la promesse de Dieu, que ces souffrances, c'est pas comme si il s'est endormi d'un seul coup, le diable nous a attaqués. Ces souffrances, il les laisse dans notre vie pour nous transformer. Ce serait merveilleux si on pouvait apprendre à vivre en chrétien pas parfait, mais en chrétien mûr, mourir dans la facilité. Ce serait une chose fantastique. Mais c'est un peu comme si vous espériez que vos enfants vont grandir, avoir un corps en bonne santé, en ne mangeant que de la glace à la vanille. Nous, on est tellement, on redoute tellement la souffrance. On vit dans une société où tout est mis en place pour nous protéger de la souffrance, au point où les gens ne prennent plus le moindre risque. Le seul risque qu'on prend, c'est de manifester lorsqu'on a touché à nos protections sociales. Et le résultat, c'est que les gens dépérissent, les gens sont manquent d'enthousiasme, les gens sont renfermés, les gens ont peur. Il faut avoir la foi dans les paroles de Dieu. Il nous dit, ces souffrances, elles ont une conséquence bénéfique pour vous. Et il y a une progression. La tribulation mène à la persévérance, qui mène à la fidélité éprouvée, qui conduit à l'espérance. Là encore, quand on lit rapidement ce texte, on dit c'est du verbiage religieux, c'est des textes pour le dimanche, mais ça ne me touche pas le lundi matin. La tribulation, qu'est-ce que c'est? C'est le mot en grec, était le mot qu'on utilisait pour désigner la pression que l'on appliquait sur des olives pour en faire sortir l'huile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des presses à huile. Il y en a des fois qui sont montrées dans les villages de la région. Il y a des grosses meules de pierre. Et puis, on met les olives dans des récipients avec de la toile et on met ça sous les pierres et ça passe. Et il y a cette pierre qui broie, qui écrase complètement, qui anéantit l'olive. Mais à l'autre côté, il y a cette huile précieuse et bonne qui en sort. Le meilleur exemple de cette grande affliction, ce stress au maximum, que veut dire le mot tribulation, c'était justement dans l'endroit qui s'appelle la place de la presse à olives. Peut-être vous ne connaissez pas cet endroit, mais si je vous dis que c'était le jardin de Gethsémané, ça veut dire exactement ça, ça veut dire l'endroit de la presse à olives. Et c'est là que Jésus était sous cette telle pression au moment où il devait accepter de suivre le plan de Dieu, lorsqu'il priait et qu'il luttait, que cette coupe passe mes lèvres, si elle peut passer mes lèvres, au point qu'il en suait des grands mots de sang, il est dit dans la parole. Il y avait une telle pression que là, c'était presque comme de l'huile qui sortait. Il était écrasé, mais il a surmonté, il a dit « Que ta volonté soit faite ». Et la tribulation, c'est donc ces choses qui me conduisent au point où je reconnais que je suis incapable de m'en sortir tout seul. Et ça aussi, c'est notre grand défaut, notre fierté de vouloir nous en sortir tout seul. Lorsqu'on dit de dire, on encourage les gens à reconnaître leur faiblesse, la réaction c'est de dire non, je peux me reprendre, je suis fatigué, ou j'ai eu des difficultés. Mais quelque part, il y a la force. Et Dieu veut nous amener à ce point où on lui dit, j'y arrive plus, et il nous dit, tu ne pourrais jamais y arriver. Merci, prends ma main maintenant, on va y aller ensemble. Et Dieu, là, il me dit, enfin Pierre, voilà, t'es arrivé, prends ma main, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Tu vas voir ce que je vais te faire. Cette tribulation, cet écrasement, cette pression, elle mène à la persévérance. Persévérance, c'est la capacité de se tenir debout sous un poids sans s'écraser, sans s'effondrer. C'est ne pas s'écrouler. C'est rester debout sans s'écrouler. Et lorsque je sais que Dieu prend ma main, je peux ne pas m'écrouler. Et peut-être parmi vous, parmi nous, il y en a qui sont sur le point de s'écrouler. Et Dieu est là qui dit, si tu prends ma main, je vais t'aider à te tenir debout, tu vas persévérer. Lorsque je fais l'expérience de cette persévérance, je vois que le Seigneur m'aide à tenir le coup, alors ça me donne confiance que ces promesses arrivent en leur temps. Ce n'est pas seulement des paroles qu'on entend le dimanche matin qui ont l'air très pieuses et qui ne veulent rien dire, c'est des choses réelles dans ma vie de tous les jours. Et ça mène à la fidélité éprouvée. Vous avez peut-être déjà vu des essais de matériaux. Je travaillais un moment quand j'étais étudiant dans un laboratoire d'essais de matériaux et pour voir si on peut construire un pont sur telle rive de fleuve, on va prendre des carottes, des morceaux du sol de la berge et on va les mettre sous une machine et on va appliquer une pression. Et on va voir l'aiguille qui monte, et la pression augmente, jusqu'au moment où l'aiguille retombe, et la pièce est cassée. Et lorsqu'on veut fabriquer quelque chose, on va se dire, il faut que ça tienne au moins jusque-là. Et si ça tient jusque-là, à ce moment-là, les Grecs Ils n'avaient pas les machines, mais ils faisaient la même chose. Ils mettaient le mot dokimos. Dokimé, c'est la fidélité éprouvée, ce qui a été testé et approuvé, avec quoi on peut construire quelque chose. Si j'arrive à persévérer, Dieu va pouvoir faire quelque chose avec ma vie. Il peut m'utiliser. C'est aussi l'idée que Dieu est fidèle. Si moi je ne suis pas fidèle, lui il va être fidèle. Il va m'aider ma vie à compter pour quelque chose, si je la lui donne, si je la lui confie. Vous vous souvenez, lorsqu'on a fait le week-end à la montagne à Saint-Martin, en octobre dernier, on a fait une grande balade vers le col de Salaise, et à un moment donné, il y avait un arbre qui était fantastique. C'était un arbre qui tenait dans le vide, pratiquement. Il y avait un petit bout, je ne sais pas si vous l'avez... Il y en a qui se rappellent d'avoir vu ça. Je crois que Edwin, peut-être... Et j'ai pris une photo, et cet arbre, il avait des racines qui partaient très loin pour trouver de la terre, et il semblait en équilibre sur un rocher. Et ça, c'est l'idée que lorsque nous avons des épreuves, nous devons plonger nos racines au plus profond en Christ. Ça, c'est pour avoir cette fidélité éprouvée, pour pouvoir résister, il faut que je plonge. Et c'est souvent les arbres battus par les intempéries qui ont les racines les plus profondes. Il y a des séquoias, des fois, qui sont dans les forêts. Ils n'ont pas beaucoup de profondeur de racines. Par contre, des petits cèdres en pleine côte exposés au vent vont devoir s'accrocher dur. Et puis, il y a l'espérance. Ces expériences de la fidélité de Dieu, ça va me donner confiance pour l'avenir. C'est la certitude absolue que quelque chose de bon va arriver. Souvent le mot espérance, le mot espoir dans notre langage, c'est un vague sentiment de « Ah, si seulement ça pouvait arriver, ce serait bien. » Mais en termes du Nouveau Testament, l'espérance, c'est pas quelque chose d'hypothétique, c'est une assurance. C'est l'assurance de quelque chose de bien qui va venir. Et cette espérance, elle ne trompe pas, elle ne nous amène pas de honte, il est dit. Elle ne nous trompe pas, verset 5. Vous n'aurez jamais à regretter d'avoir fait confiance à Jésus. Jamais vous rougirez parce que vous direz, oui, j'étais bête, j'ai cru à l'Évangile. Et maintenant, me voilà dans la misère, me voilà dans l'embarras. La parole de Dieu est certaine. Non seulement l'Évangile nous le dit, mais les psaumes, souvent les questions, il se confie en toi, il n'était pas dans la honte, psaume 22:5. Psaume 25, verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. Je ne suis pas couvert de honte quand je me réfugie en toi. On peut avoir honte de beaucoup de choses, de beaucoup de mauvaises décisions, mais on n'aura jamais honte de faire confiance à Dieu. Un autre bénéfice, c'est l'amour de Dieu, verset 5. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est l'amour agapé, cet amour qui vient de Dieu, pour lui et pour les autres. Moi, je ne peux pas aimer les gens comme Dieu les aime, mais je peux les aimer si je reçois son amour pour eux. Et c'est le Saint-Esprit qui répand cet amour en nous, dans nos cœurs. Peut-être vous dites, je ne peux pas aimer cette personne. Je peux pas. Ou dans des couples, des fois, il y a des situations où les gens en viennent à se haïr, à se détester. Encore une fois, c'est pas l'histoire de... L'amour de Dieu peut venir être manifesté dans votre vie, dans votre cœur, et se manifester par des actes, pas par des sentiments. En anglais, on parle des « warm fuzzies », les sentiments chauds, flous, qui « Oh, je suis rempli d'amour, c'est merveilleux. » Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un verbe. L'amour, ce sont des actes, c'est une décision. Et Dieu nous donne l'amour nécessaire dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour, il est prouvé parce que Dieu nous l'a donné alors que nous étions les derniers à le mériter. Non seulement nous étions des impies, c'est-à-dire que nous n'avions aucun respect pour Dieu. Nous étions faibles, sans force, aucune force spirituelle, aucune force morale, physique pour nous sauver nous-mêmes. Et nous étions des pécheurs. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ça, c'est, on va voir Paul continuer dans ce raisonnement. Mais on voit que Dieu est à l'œuvre par cet amour qui répand dans nos cœurs. Le mot qu'il répand montre que c'est abondant. Il vous en donner jusqu'à ce que ça déborde. On ne va pas avoir à essayer de serrer le cœur pour trouver une petite goutte d'amour. Non, notre cœur va déborder d'amour par le Saint-Esprit. Et puis, Paul s'engage dans un raisonnement pour nous montrer que nous sommes protégés de la colère de Dieu et que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et là, il utilise un raisonnement logique très puissant. C'est le raisonnement qu'on appelle le raisonnement a fortiori, ça c'est l'expression latine, qui veut dire à plus forte raison. Et son raisonnement est très simple. Il dit, réalisez ce que Dieu a fait pour vous lorsque vous étiez ses ennemis. À bien plus forte raison, maintenant que vous êtes ses amis, ne va-t-il pas tout faire pour vous? C'est un argument très fort et très vrai. C'est surtout ça que j'aimerais que vous réalisiez ce matin, que je réalise aussi. Lorsque je doute de l'amour de Dieu, il suffit que je regarde la croix. Et si Jésus est mort pour nous, alors que nous étions complètement indignes, nous étions ses ennemis, nous étions pécheurs, nous étions faibles, nous étions impies, alors comment est-ce que je peux douter de son amour pour moi aujourd'hui? Et verset 7, c'est une parenthèse, il dit, nous les hommes, pardon, à la limite on mourrait pour quelqu'un qui a une certaine valeur à nos yeux, mais Dieu, il n'a pas regardé à ça. Il a donné tout son amour d'un seul coup et il nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, par la mort de son Fils. Et il dit, verset 10, même raisonnement, si nous avons été réconciliés par la mort de son Fils, mort sur la croix, à plus forte raison maintenant que son Fils est vivant, nous sommes réconciliés dans une façon vivante et réelle avec lui. Et nous pouvons nous vanter de ce que Dieu a fait, c'est le verset 11. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Nous pouvons nous vanter de Jésus-Christ et de dire aux autres, regardez ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais rien, j'étais ennemi de Dieu. Il est venu, il a accepté de mourir pour moi. Maintenant je suis réconcilié. Dieu m'aimait lorsque j'étais son ennemi. Maintenant que je suis son ami, comment est-ce que je peux douter de son amour? Ça devrait révolutionner notre vie, ça devrait faire que nous pouvons lui confier nos problèmes, quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos angoisses, nos peurs. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'encore une fois, ça me ramène au fait que j'ai rien à faire pour mériter l'amour de Dieu. Vous vous souvenez du baptême de Jésus? L'Esprit Saint était descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Il y avait cette voix du ciel qui était venue, qui disait, qui s'était fait entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Question, on pourrait se dire, mais attendez, Jésus n'avait encore rien fait. Il n'avait pas encore prêché. Il n'avait pas encore fait de miracle. Il n'avait pas encore ressuscité les morts. Pourquoi est-ce que Dieu lui dit son amour? Il lui dit son amour pas parce qu'il va faire ou il a fait, mais il lui dit parce qu'il est son Fils. Bien-aimé. Quand Tonio est né, je vais l'embarrasser, juste un peu. Et pour tous les parents, vous vous souvenez de la naissance de votre enfant, du premier enfant surtout, la première fois que ça vous arrive. Tonio n'avait encore rien fait. Juste faire causer un peu de douleur à sa maman. Et je ne l'ai pas grondé pour ça. Mais tout de suite, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai aimé. Pas parce qu'il avait fait des choses merveilleuses ou qu'il allait en faire, j'en savais rien. Simplement parce qu'il était mon fils. Et il l'est toujours. Et ce qui compte pour Dieu, c'est pas ce que vous faites. C'est ce que vous êtes. Vous êtes ses enfants si vous êtes venus à lui par Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, merci de ce que tu nous as aimés avant même que nous te cherchions, avant même que nous pensions pouvoir le mériter, Seigneur. Merci de ce que tu veux nous faire comprendre, Seigneur. Tu veux nous faire rentrer dans la tête cette idée définitive et tellement importante que tu nous aimes, pas parce que nous sommes aimables, mais parce que tu as décidé de nous aimer, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Aide-nous à vivre cette réalité qui fait que nous savons accepter, aimer par toi. Et cette réalité, Seigneur, elle nous permet de supporter les épreuves, même de nous réjouir dans les épreuves, parce que nous savons que à travers ces épreuves que tu permets, tu travailles dans nos cœurs, tu travailles dans nos vies, tu fais de nous les instruments que tu as, que tu veux, Seigneur. Tu nous permets de porter du fruit, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te parler à tout moment. Lorsque nous-mêmes, en groupe, Seigneur, lorsque dans la communion fraternelle, nous pouvons échanger des sujets d'inquiétude, de peine, de douleur, de besoin, aide-nous à nous donner ce réflexe. Donne-nous ce réflexe, Seigneur, de porter ces choses à toi, sachant que lorsque nous le faisons, tu nous donnes la paix de Dieu qui est merveilleuse aussi, Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu as prouvé ton amour, que nous n'avons jamais à le remettre en cause. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous sentir moins aimés lorsque nous rencontrons ces épreuves, lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais douter de ton amour. Seigneur, parce que cet amour, il est indestructible, rien ne peut l'enlever, rien ne peut le changer. Et merci aussi, Seigneur, que nous ne sommes jamais plus justes envers toi que lorsque nous venons à toi par Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons le Seigneur dans notre cœur, ce n'est pas une justice que nous devons perfectionner que tu nous donnes, c'est celle de Christ. Nous sommes parfaits à tes yeux, tu nous aimes. Seigneur, aide-nous à vivre ces réalités dans notre vie quotidienne, à les transmettre autour de nous par nos actions, par nos actes, par nos paroles. Sois glorifié ce matin dans nos vies, Seigneur, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous encourage, vous bénisse et donnez la main à Jésus cette semaine. Amen.